Guillaume, est-ce que tu peux faire un lien avec ce qu'on peut observer à Pointe-Saint-Charles?
Mm-hmm. Oui, ben, pour faire le lien, c'est surtout avec la guérilla jardinière, qui est un mouvement, si on veut, politique de jardinage, qui serait né il y a plusieurs années, je dirais dans les années 80-90, qui est en fait une forme d'action directe qui se veut non-violente, où les activistes vont, si on veut, prendre d'assaut un bout de terrain qui est inutilisé, abandonné ou tout simplement inexploité par son propriétaire, que ce soit la ville ou un privé, pour faire pousser des légumes, des plantes, des fleurs, bref, créer un environnement urbain qui est agréable puis qui est également utile. C'est d'où l'idée de jardiner, de faire un potager, c'est-à-dire de planter des fruits et légumes. Dans le fond, c'est pas une vraie guérilla, là. Il y a aucunement écoulement de sang, néanmoins.
C'est un peu une action pour populariser en même temps.
Oui, c'est une action qui est directe. Donc, si on veut, ça va brimer la loi. C'est en contrevenance avec la loi, néanmoins. C'est une action, si on veut, qui est socialement acceptable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est contre ça, mis à part peut-être le propriétaire ou la ville. Donc, c'est de réutiliser les terrains qui sont négligés, puisqu'il y a beaucoup de terrains à Sherbrooke qui vont être en proie à la spéculation immobilière, c'est-à-dire on va laisser un bâtiment ou un terrain vacant uniquement pour faire grimper les prix jusqu'à temps que le moment soit venu pour le vendre à très fort prix pour un quelconque promoteur qui va faire notre affaire, qui va être s'inscrire dans la même ligne de pensée que la nôtre. Bref, c'est d'utiliser les terrains qui sont là. Je veux dire, la richesse existe. On ne peut juste pas y avoir accès à cause de la loi bourgeoise, à cause des propriétaires. Puis c'est de l'utiliser pour faire quelque chose qui est concret, qui est utile, c'est-à-dire faire pousser des légumes. Puis je pense que l'action qui va être menée s'inscrit dans cette tradition-là. Puis à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, Pointe-Saint-Charles qui est encore depuis longtemps un quartier populaire, c'est-à-dire un quartier pauvre, hein? Des ouvriers ouvrières qui habitent un quartier avec quand même une très forte identité, tout près de l'ancien Technoparc, une espèce de gros terrain pollué par la ville de Montréal et aussi par l'ECN. En fait, il y a un groupe communautaire qui s'appelle la Pointe Libertaire, Pointe Saint-Charles Libertaire, qui vont bientôt ouvrir un centre social autogéré ou encore qui est dans le fond le nom atténué de squat. Ils vont ouvrir un squat sur les anciens locaux du CN qui sont abandonnés depuis belle lurette et qui appartiennent à un promoteur immobilier quelconque très riche qui veut éventuellement les revendre à fort prix ou encore construire des condos pour riches.
Ben en fait, elle est comme à vendre à une pièce, mais ils vont la vendre à qui voudront bien l'acheter, que ça va être là, ça va faire leur affaire.
Ah ouais, c'est ça. Puis, faut dire que la Pointe-Saint-Charles est en proie à la gentrification depuis un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a des promoteurs, c'est personne d'autre que des promoteurs, c'est-à-dire des gens qui ont des projets et beaucoup d'argent, qui sont en train de construire des gros condos de luxe en plein milieu du quartier ouvrier, néanmoins qui restent isolés de celui-ci. On avait l'exemple d'un condo qui avait été construit avec des belles grandes fenêtres sur le canal La Chine, vraiment un bel espace de vie, mais aucune fenêtre sur le quartier populaire. Donc, on voit vraiment que c'est deux classes différentes d'individus qui vont résider.
Il y a une stratification sociale qui est en train de se créer. Exactement. Avec les projets immobiliers. Mm-hmm.
Avec les gardes urbains, je veux dire Garda, puis ces autres-là qu'on commence à avoir l'habitude de voir dans les rues, qui vont maintenir la sécurité de ces gens très importants-là, bref. Donc, ce groupe-là a décidé de, si on veut, réinvestir le communautaire. Puis, on a fait de belles sessions de guérilla jardinière. Ils en ont même parlé, consacré plusieurs pages dans la presse, je ne me souviens plus quand. Bref, ils occupaient des terrains vagues carrément. Ils faisaient pousser des plantes, des jardins, ils mettaient des bancs, bref. Ils faisaient de l'aménagement urbain à l'échelle humaine. Et ça, sans demander la permission à quiconque. D'ailleurs, la ville la tolère, puisque, je veux dire, tout le monde en profite, Chris. Sauf que c'est certain qu'aussitôt que ça va déranger, ben là, il y a la police qui est là pour aider la mairie, pour déloger ces dérangeants-là, si on veut.
Mais pour revenir à Sherbrooke, moi, je l'avais justement demandé d'avoir des espaces jardins au centre-ville. Puis quand on passe avec la filière bureaucratique, souvent, on n'a pas de réponse. Puis souvent, on se fait dire, mais va voir, mettons, les jardins écologiques. Puis là, tu passes un appel au jardin écologique. De là, Sherbrooke, il y a un jardin qui est subventionné par la ville. Puis t'as pas le retour d'appel. Ça fait qu'il y a comme une certaine forme d'impuissance, une frustration. Puis en fait, pour avoir contacté des terrains privés, parce que c'est une autre possibilité d'appeler un privé, là, la question, c'est question d'assurance responsabilité. On peut pas vous permettre d'être sur les lieux parce que les assurances le permettraient pas. Fait que c'est vrai que T'sais, en ce moment, mm-hmm. quoi, au centre-ville, tu as le terrain du Maxi qui est juste à côté du SAQ, qui est un super mm-hmm. beau spot pour un grand jardin, mais impossible de faire quoi que ce soit là.
En périphérie du chemin de fer également. Là.
Mm-hmm. En fait, au niveau municipal, c'est assez clair que les promoteurs immobiliers ont énormément de pouvoir.
Pour donner un exemple, d'ailleurs, moi, je suis un jardinier, puis j'ai connu, si on veut, trois jardins communautaires que j'ai pas nécessairement occupé moi-même. Il y en a deux. Un que j'ai occupé, puis un autre que tout le monde connaît. Les deux sont... Il y en a un qui est situé sur une ancienne décharge publique. Donc, déjà là, c'est un peu douteux à Ascot. C'est intéressant. Il y a de magnifiques jardins. Néanmoins, il y a très peu d'espace, puis ils sont réservés longtemps d'avance. Il y a également près du dépanneur Ménassen, à côté du
Marais Saint-François.
Exactement, qui aussi également à côté d'un ancien dépotoir, étrangement. donc, on voit que la ville donne une très grande priorité au projet écologique. Il y en avait un autre qui était situé tout près du cégep, sur un terrain vague, en fait, qui avait été vraiment
rendu.
un très bel exemple de cohésion communautaire, si on veut, où ce que plusieurs familles y allaient, faisaient des barbecues.
Je pense qu'il y avait même de la production alimentaire.
Il y avait un four à bois.
Il y avait un four à pain, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Le jardin a été fermé, puis depuis, on a construit une espèce de gros bloc de résidence pour personnes âgées qui est vraiment, franchement, pas très esthétique, sûrement assez modique pour ses prix, mais bon, bref.
Mais probablement plus profitable pour les promoteurs.
Ah, définitivement. Puis,
pour la ville aussi.
Ah oui, c'est certain. Mais on voit quelles priorités sont données à l'ensemble des aires.
Rappelez, par exemple, que ce terrain-là avait l'autorisation de la ville, de toutes les autorisations mm-hmm. légales, puis ça n'a pas empêché... Même si on a les autorisations de se faire relocaliser, mm-hmm. qu'est-ce qu'on a à perdre d'occuper un terrain pour...
Ah, il faut continuer les occupations, puis je pense que tout le monde va en bénéficier.
C'est comme ça que les choses peuvent s'améliorer. Quand on regarde la création du réseau de garderies au Québec, ça n'a pas passé par des belles lettres d'amour avec les mairies puis les gouvernements. Ça a été des gens qui se sont rassemblés puis qui sont allés s'instaurer dans des lieux qui avaient été abandonnés, collectivement, puis ça, avec une solidarité sociale, ils ont partagé des ressources, puis après ça, ça l'a créé à l'officialisation de ce réseau-là. Donc, faut pas hésiter. Donc, est-ce qu'on peut rappeler, c'est quoi l'activité qui va avoir lieu dimanche prochain? Ça va être le 24 mai, à quelle heure?
D'autres, on va être là à partir de 9h. De 9h jusqu'à 5h. Fait que ce qu'on invite les gens à faire, c'est d'amener soit leurs germes de patates, ou ceux qui ont déjà parti leur plan de patates sont très peu ici à Sherbrooke. Je leur rappelle de les amener. Puis, tout simplement, d'amener le sourire, d'être sur les lieux tout le long de la journée pour... nous autres, on va essayer de distribuer des pamphlets pour faire soit un sondage auprès des gens qui tournent autour du Lac des Nations concernant l'avenir de ce lieu-là.
Ben, merci beaucoup. Vous écoutiez La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX. On vous quitte pour une prochaine émission. À plus tard.